réinvité
oui.
à une prochaine émission. Donc, revenez-nous la semaine prochaine. On va se quitter avec le top, le numéro 1 de Félix lorsque je lui ai demandé c'était quoi sa chanson préférée.
Oui.
On parle de... Est-ce que Félix, tu sais c'est laquelle?
Bugatti de Tiga.
C'est exactement
yes!
ça.
Très bonne, elle aussi.
Yeah. Et après ça, on va vous laisser avec l'émission.
J'adore cette chanson.
C'est quoi la prochaine émission?
La photo média.
La faute aux médias, qui est une émission politique.
J'adore cette émission, j'écoute souvent.
La faute, c'est leur faute, hein, les médias.
Merci beaucoup, les gars.
Ciao, ciao.
Bye.
À demain.
Primeurs, 30 événements gratuits, des leçons de cinéma avec Pascal Bussière, André Turpin, Philippe Falardeau, les gars de Seine-et-Noire Jean-François Rivard et François Letourneau. Les rendez-vous, c'est aussi 10 nuits éclatées pour célébrer notre cinéma avec, entre autres, les parties New Wave, Laxex, Eman & Looper et toute une programmation pour la Nuit Blanche, le Elvis Graton Picture Show, présenté par le Casino, co-présenté par Bell, ainsi que le méga party Nuit Blanche Série Noire. Rapprochez-vous de votre cinéma sur québeccinéma.ca.
Sois pas plus catholique que le pape et réserve tes dates pour la cuvée d'hiver. Profite du meilleur de Montréal à la 4e édition de la cuvée du 25 au 27 février prochain. Dans une ambiance rétro, bière, whisky, cocktail, bonne bouffe et musique seront au rendez-vous. Au programme sur la scène Saint-Ambroise, Kate Bliss, Hellbound, Hepcats, Loose Pistons et DJ Don Mescal pour vous faire swinguer toute la soirée. Du 25 au 27 février, il va y avoir du monde à la messe au salon 1861 dans Griffintown. Il est disponible en prévente au lacuvée.ca.
Pour la première fois, des étudiants de l'UQAM s'associent et organisent le mois de l'histoire des Noirs. Du 25 au 28 février, venez célébrer ce mois du savoir et de la découverte. Au programme, impact de la femme noire en Occident et en Afrique. Samedi 27, à partir de 16h, la diffusion en exclusivité de la série documentaire Afro-Canadien. Et enfin, dimanche, un panel de parcours inspirant. Le mois de l'histoire des Noirs, du 25 au 28 février. Pour de plus amples informations, suivez notre page Facebook Migra Luventa.
Mesdames, messieurs, les amèches, vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca.
Ce soir, en direct sur les ondes de choc, vous trouvez que ça va mal dans le monde? Vous vous sentez trahi par l'annonce de cette tempête qui n'a pas vraiment eu lieu? Tout ça, c'est la faute aux médias. En direct avec Émilien Roscanou à l'animation. Donc nous avons également ce soir avec nous une équipe réduite, Myriam Bernet ainsi que Camila Rodriguez-Ca. Bienvenue à vous deux.
Bonjour!
Donc, ce soir, on vous parle des résultats du Super Tuesday ou Super Mardi, qui est un point marquant dans le processus de sélection du candidat de chaque parti aux élections présidentielles états-uniennes. On aborde le statut particulier de Puerto Rico et on discute aussi de la couverture médiatique de ces élections. Donc, tout d'abord, avant de commencer, je vais vous résumer un peu ce que sont exactement les primaires et les caucus là, dans ces élections-là. On va démystifier un peu la chose. Donc, le Parti démocrate et le Parti républicain choisissent État par État qui sera le prochain représentant de leur parti aux élections présidentielles de novembre prochain. Le Super Tuesday est justement un moment très spécial parce que c'est un parce qu'il y a un nombre important d'États qui choisissaient leurs candidats en même temps ce mardi. Il existe deux types d'élections, les primaires et les caucus. Les primaires s'apparentent à un vote normal. Et il en existe plusieurs types, des plus ouvertes, où les non-membres, par exemple, ont le droit de vote, et des plus fermées, où seulement les membres en règle du parti peuvent voter. Les caucus sont un modèle plus ancien et moins utilisé. C'est un modèle où il y a des discussions en petits groupes et on tente de convaincre par la discussion, l'argumentation, les autres membres pour qu'ils choisissent un candidat plutôt qu'un autre.
Ça ressemble à une assemblée générale.
Exactement. Donc, le nombre de votes détermine ensuite le nombre de délégués nationaux élus dans chaque État. Donc, ces élus seront à la convention du parti plus tard cette année et voteront pour élire officiellement le candidat à la présidentielle. C'est un peu compliqué comme processus. Chez les démocrates, le nombre de délégués est attribué proportionnellement au nombre de votes. Donc, si un candidat obtient 40% des votes dans un État, il aura 40% des délégués associés. Donc, chez les républicains, c'est aussi le cas pour certains États, mais pour d'autres, le candidat ayant remporté la majorité simple de voix remporte les délégués de tout l'État. C'est pourquoi, par exemple, le 15 mars, on va avoir la confirmation presque absolue du candidat républicain parce que la Floride, qui vote le 15 mars, c'est l'un des États ayant le plus de délégués et c'est un État où ils accordent tous leurs délégués aux candidats ayant obtenu la majorité de voix. C'est un système assez complexe, je vous l'accorde, mais c'est assez important de le comprendre pour interpréter les résultats du Super Tuesday dont Myriam va nous faire l'analyse. Donc Myriam, est-ce que tu pourrais nous résumer un peu ce qui s'est passé ce mardi aux États-Unis?
Oui, bien sûr. Alors, c'est sans surprise que les deux favoris de la course, déjà en tête lors des premiers caucus, ont remporté le plus d'États et de délégués nationaux. J'ai nommé Hillary Clinton et Donald Trump. Suite à cette journée cruciale des primaires, du côté démocrate, Hillary Clinton a remporté 7 des 12 États et territoires en jeu, dont la majorité sont des États du Sud, contre seulement 4 pour son concurrent Bernie Sanders, qui a eu un peu plus de succès dans les États du Nord, dont chez lui, dans le Vermont. Un résultat, somme toute, sans grande surprise. Du côté des républicains, le résultat est plus mitigé. En effet, bien que le milliardaire controversé Donald Trump ait remporté 7 des 11 États votants, contre seulement 3 pour Ted Cruz, c'est tout de même ce dernier qui l'a remporté au Texas. Ceci est un résultat qui n'est pas négligeable, car il va vraiment peser dans la balance. En effet, le Texas est le second État qui possède le plus de délégués nationaux. Et l'écart est plus important que ce que prévoyaient les sondages, avec 44% des votes pour Cruz dans cet État, contre seulement 27% pour Trump. Cela signifie donc que, malgré l'avance de Trump, Cruz possède un avantage tout de même important. Les grandes perdantes de cette course sont Marco Rubio, avec un seul État, ainsi que Ben Carson et John Kasich, qui, eux, n'en ont remporté aucun. Mais les votes ne sont pas terminés. Durant cette fin de semaine et le reste du mois de mars, plusieurs États et territoires vont encore voter. La confrontation entre l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton et le mania de l'immobilier Donald Trump semble tout de même inévitable. Sauf si les républicains forment une alliance pour contrer celui qui, rappelons-le, n'était pas vraiment pris au sérieux au début de la course à la Maison-Blanche.
Non, tout le monde riait de lui.
Exactement.
On rit encore, mais on rit jaune.
C'est ça.
Jaune comme ses cheveux.
Mais le camp républicain est toujours divisé. Et si Trump veut être le candidat à la présidentielle américaine en novembre, il va devoir obtenir la majorité absolue, soit 1237 sur 2472 des délégués républicains en jeu. Et concernant la candidate démocrate, elle devra remporter 2242 délégués sur les 4483 que compte son parti.
Donc, beaucoup plus de délégués au final du côté démocrate. Est-ce que tu as relevé un impact particulier sur la population américaine après le résultat de mardi?
Oui, en effet. Il s'agit d'ailleurs d'une histoire assez cocasse, mais on dirait que les résultats du Super Tuesday ont révélé l'existence du Canada à pas mal d'Américains. C'est Simon Rogers, un responsable data de Google, qui a partagé l'information sur Twitter. le taux de requêtes sur le moteur de recherche pour « How can I move to Canada ?», soit « Comment faire pour déménager au Canada ?», a grimpé de 350% dans les heures qui ont suivi l'annonce des résultats de mardi, avec un pic enregistré à 1150%. Et grâce à la magie du data, on a même pu voir que la majorité de ces exilés potentiels venaient du Massachusetts, où Donald Trump s'est imposé avec près de 49% des voix. Le même soir, c'est aussi le site du gouvernement du Canada qui a été surchargé de visites d'internautes venus chercher des informations pour un éventuel déménagement, au point d'afficher un message d'avertissement pour prévenir celles et ceux qui s'y rendraient. Si le site rame, c'est normal, vous êtes tous en train d'essayer d'émigrer. Que les Américains se rassurent, le Canada a déjà pensé à eux. En effet, avant le vote de mardi, l'île de Cap-Breton en Nouvelle-Écosse se proposait déjà d'accueillir les réfugiés américains en cas de victoire de Trump à la présidentielle.
C'était aussi le cas dans le temps quand c'était Obama et Harper, les Canadiens voulaient déménager aux États-Unis.
Exact.
Maintenant, c'est l'inverse. Si Trump venait à gagner, il y aurait beaucoup de gens qui voudraient de notre Trudeau national. Merci beaucoup, Myriam.
Ça fait plaisir.
Donc, on se quitte maintenant avec une petite chanson, « 100 Million » de Charlie Hilton.
C'est plus plaisant comme ça. Ok, maintenant qu'on a commencé en retard, attendez un peu. Il s'est allumé tout de suite, je voulais le télécharger. Parce que je me suis dit, si on rit aujourd'hui, je pourrais bien passer ça. Je vais trouver le moment pour le plugger.
Falling down, we
Vous êtes de retour sur les ondes de choc.ca, toujours à l'émission La Faute aux médias. Donc maintenant, on va aborder un sujet plus particulier. On va parler de Puerto Rico. Donc Camila, on parlait tout à l'heure des primaires et des caucus, mais ce qui est moins connu, c'est que c'est pas parce qu'on peut participer aux élections du chef de son parti qu'on pourra voter pour le président du pays.
Je sais, ça peut paraître étonnant, mais on sait que les États-Unis aiment parfois faire les choses différemment. Et une de ces choses, c'est d'être parmi les derniers pays au monde à encore avoir une colonie. Et je parle aujourd'hui de Puerto Rico, donc qui était une colonie espagnole. Il y a eu une guerre entre l'Espagne et les États-Unis à la fin du 19e siècle. Puis, comme résultat de cette guerre-là, Puerto Rico est devenu un territoire états-unien. Donc, pas un État, mais un territoire. Par conséquent, ils ne peuvent pas voter pour leur président. Ils peuvent voter pour le chef du parti auquel ils appartiennent, donc démocrate ou républicain. Mais ils n'ont pas de représentant au Congrès. C'est-à-dire, oui, ils ont un représentant au Congrès, mais ce dernier ne peut pas voter. Il est juste, il y a juste une présence. Puis celui-là, et ce dernier est affilié à un parti. Puerto Rico, il y a deux écoles de pensée, puis une dernière qui est plus marginale. Il y a ceux qui veulent que Puerto Rico devienne un État des États-Unis, donc 100% pro-États-Unien. Il y a ceux pour le statu quo, donc ce qu'on appelle les pro-Commonwealth. Et les derniers, il y a une mouvance indépendantiste qui existe à Puerto Rico, oui, comme au Québec, Émilien. Là-bas, en 2012, il y a eu un référendum, puis il y a seulement 5,5% des gens qui ont voté pour l'indépendance, donc très marginal. Mais un autre point commun qui est peut-être anecdotique, mais quand même très intéressant avec le Québec, c'est qu'en plus d'avoir un mouvement indépendantiste, ils doivent leur situation, disons, peut-être au même événement, si on peut dire, ou une similitude dans les événements. Je m'explique. Pardon, excusez-moi, je me suis perdue. Donc, en 1898, suite au traité de Paris, Puerto Rico passe de possession espagnole à possession états-unienne. Puis, c'est à un traité du même nom qu'au Québec, on doit notre appartenance à l'Angleterre, ou plutôt, je veux dire, au Canada, on doit notre appartenance à l'Angleterre parce que, suite à la guerre de 7 ans, la France a donné le Canada et plusieurs autres colonies à l'Angleterre.
Donc, ensuite, les primaires républicaines à Puerto Rico se déroulent ce dimanche. À quoi ressemble la couverture médiatique locale? Est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, dimanche, il y a les primaires républicaines. Il y a Rubio qui est pressenti comme gagnant. Et les démocrates, eux, vont voter en juin. Puis c'est Hillary qui est pressenti de ce côté-là. La couverture médiatique à Puerto Rico ressemble à celle qu'on a partout ailleurs. Donc, évidemment, il y a notre ami qui est très drôle, qui dit imbécilité par-dessus imbécilité, qui occupe la manchette. Donc, je nomme ici, devinez.
Donald Trump.
Et il y a un média assez intéressant qui s'appelle Claridad à Puerto Rico, ce qu'on pourrait traduire... disons, grosso modo, par des transparences, qui est un média indépendantiste. Puis, dans ce média-là, sur le site Internet, les États-Unis sont classés dans la section internationale. Donc, c'est assez intéressant à remarquer. Là-bas, sur un autre ordre d'idée, c'est l'argent public qui est utilisé pour organiser les primaires. Puis, vous me direz, oui, Camila, c'est normal qu'on utilise l'argent de l'État pour financer des élections. C'est normal. Sauf que, comme je vous disais tout à l'heure, les Portoricains n'ont pas de représentants élus au Congrès, puis ils peuvent pas non plus élire leur président. Donc, ça fait que... parce qu'ils n'ont pas le droit de voter lors des élections générales. Donc, ils n'ont pas d'impact direct ni réel sur la manière dont la politique est faite chez eux. Mais... à l'inverse, le président, lui, a énormément de pouvoir sur eux et donc on a un rapport de force assez déséquilibré à Puerto Rico.
Oui, ça doit être assez frustrant là, pour les habitants du coin.
On imagine bien, oui.
Ben, merci beaucoup, Camila, pour nous avoir éclairé sur la situation de Puerto Rico.
Avec plaisir.
Donc maintenant, je vais faire un petit résumé là, de la couverture médiatique. Donc après avoir résumé ce qui s'était passé au Super Tuesday et ce qui se passait également à Puerto Rico, son statut particulier, qu'en est-il de la couverture médiatique de cette campagne au Québec? Donc elle occupe un espace médiatique assez important, bien que ce ne soit pas le sujet de prédilection des grands médias, où par exemple la semaine passée on a parlé énormément à plus de 4% du Canadien de Montréal, ou encore à 2,22% des Oscar. Il n'y a quand même pas une journée qui passe sans qu'une nouvelle soit publiée dans les médias en lien avec les primaires. La bête médiatique qu'est Donald Trump fait très souvent parler de lui, puisqu'il détonne avec ses déclarations souvent incendiaires, et beaucoup de réactions à son ascension sont même ébruitées chez nous. De nombreux acteurs de la société civile américaine et même du Parti républicain critiquent souvent et vertement le personnage. Miley Cyrus, par exemple, récemment a dit que Trump était un véritable cauchemar, et je répéterai pas les termes exacts qu'elle avait utilisés.
Bon, si Miley Cyrus l'a dit.
Ainsi que Mitt Romney, qui était candidat à la présidentielle de 2012 pour le Parti républicain, lui a qualifié ce matin Trump d'escroc et de charlatan. Le personnage dérange l'establishment du parti, dont Mitt Romney fait partie, parce qu'il voit en ce personnage-là, ce grotesque personnage, un ennemi plutôt qu'un allié. Un candidat de l'extérieur qui a pris d'assaut leur institution, qui défie toutes les règles et qui prend le contrôle là, sans trop d'opposition. Donc il y a une certaine levée de bouclier qui s'érige contre Trump, et j'aimerais porter votre attention sur la couverture du personnage et de ces élections-là de mardi dans les émissions politiques et satiriques aux États-Unis, qui sont très très développées, là, beaucoup plus qu'ici. Donc ces émissions sont hyper populaires. Là, elles sont diffusées à heure de grande écoute et leur portée dans les médias sociaux est immense. Là, vous avez peut-être vu passer des vidéos de John Oliver ou de John Stewart.
Le genre de choses, oui, qui ressemble à, par exemple, la soirée est encore jeune, ce qui se fait chez nous.
Oui, exemple. Mais justement, la soirée est encore jeune, justement, est calquée un peu sur ce modèle-là. Par exemple, Jimmy Fallon ou Stephen Colbert, qui ne se privent pas pour adresser des pics aux milliardaires. Par exemple, Colbert a rebaptisé le Super Tuesday dans son émission le Late Night Show pour le « My God, what have we done Wednesday? » en faisant référence aux regrets que pourraient avoir certains États-Uniens après cette victoire de Trump. John Oliver a d'ailleurs consacré son émission de dimanche dernier, l'émission Last Week Tonight à HBO, à Trump, tentant de déconstruire l'image de prolifique homme d'affaires que s'est bâti Trump au fil des années, en exposant ses contradictions et ses frasques au grand jour. Donc, d'ailleurs, il y a même un petit fait cocasse, là, le hashtag le plus populaire aux États-Unis sur Twitter cette semaine, c'était « Never Trump », ce qui illustre à quel point le personnage est polarisant et ne fait pas l'unanimité. Donc, ensuite, maintenant, je vais vous laisser en chanson juste avant notre petit débat. Donc, nous allons aller vers... en fait, non, pas en chanson, juste un petit pont qui va précéder notre débat. De retour à La Faute aux médias pour notre débat hebdomadaire. Donc, autour de la table, je vous rappelle, j'ai Camila Rodriguez-Cea ainsi que Myriam Bernet. La question toute simple, que pensez-vous des résultats du Super Tuesday aux primaires républicaines et démocrates, mais surtout républicaines, parce que c'est là que ça frappe. Donald Trump a conservé son avance contre toute attente.
Oui, ben moi, je commencerai par dire... citer et faire parler M. François Legault.
Les médias ont toujours raison.
Donc, François qui dit « Les médias ont toujours raison », est-ce que c'est vrai? Non. Est-ce que c'est la faute aux médias? Probablement. excuse-moi, Emilien, j'ai oublié. C'est quoi ta question? Je t'ai distrait.
Donc, que pensez-vous de ce qui va se passer là, avec les résultats qu'on a eus? Trump qui a conservé son avance.
OK. Moi, je suis vraiment pas tant surprise des résultats. Donc, au niveau démocrate, vraiment pas. Je m'attendais pas mal à ça au niveau de Clinton et Bernie Sanders. Après, au niveau républicain, je vous dirais que Cruz est quand même considère comme une grosse menace à l'encontre de Donald Trump. Mais ça prendrait une coalition de tous les autres républicains pour pouvoir faire basculer Trump, qui n'est pas non plus un candidat vierge de tout dérapage, comme on le sait très bien. Donc ça prendrait ça aussi, qui est un petit réveil des Américains pour faire basculer Trump et donc des Républicains.
Oui, surtout que Trump surfe sur la vague de l'espèce d'écœurantite aiguë des États-Unis, pardon, pour l'establishment, la classe politique, ses frasques, ses scandales. Et puis Trump qui débarque, qui ne vient pas de l'establishment du parti, en séduit plus d'un. Cependant, il n'est pas nécessairement aimé par cet establishment-là qui voit le pouvoir lui filer entre les doigts. Donc, il capitalise sur cette espèce de sentiment anti-establishment, anti-gouvernement.
Ce qui est le propre du populisme,
oui,
en fait.
Exact. Oui, exact. Et que même le Parti républicain avait entretenu dans les dernières années en bloquant systématiquement tous les projets d'Obama et en s'opposant à tout ce qu'il faisait et en bloquant le Parlement, par exemple.
Mais Trump, il arrive à faire quelque chose aussi, c'est comme mettre en avant l'existence de cet American Dream qui représente pour beaucoup de gens. Et les gens peut-être votent en se disant, mais moi aussi, je peux arriver à ce niveau-là un jour dans ma vie. C'est quand même très intéressant. Il faudrait des études sociologiques ou je ne sais quoi pour voir pourquoi il y a tant de personnes qui ont voté pour Donald Trump.
Alors que c'est même pas un self-made man, il a hérité de son père d'une immense fortune qu'il a.
Exact, mais exact. Le American Dream, il se voit des deux côtés de la médaille. Là, si on va à l'exact opposé de Donald Trump, on a Bernie Sanders qui, lui, évidemment, malgré son caractère beaucoup plus socialiste, on pourrait le dire, il a quand même... C'est quand même quelqu'un qui est la représentation même de l'American Dream. C'est quelqu'un qui a commencé avec pas grand-chose, qui a lutté et qui s'est bâti quelque chose propre à lui. Puis c'est peut-être ça aussi qui attire beaucoup les gens.
Oui, exact. Et puis un peu l'opposé de Hillary Clinton, par exemple, qui est issue de l'establishment, une grande famille. Son mari était déjà président. Okay. Donc, je vous remercie beaucoup pour ce débat. On va se revoir la semaine prochaine pour une autre émission de La Faute aux médias. Je rappelle qui était avec nous autour de la table ce soir. Camila Rodriguez-Ca pour une très belle chronique, merci, ainsi que la technique. Myriam Bernet également au micro. Et je vous rappelle, j'étais Émilien Roscani à l'animation.
Tu l'es encore, j'espère.
Donc, je vous remercie beaucoup et j'espère que vous allez être des nôtres la semaine prochaine. Pour La Faute aux médias, je vous laisse en chanson avec Lime Habit de Polissa. Give me-
27 février, c'est les rendez-vous du cinéma québécois présentés par la SAQ en collaboration avec Radio-Canada. Les rendez-vous, c'est plus de 330 films, 125 primeurs, 30 événements gratuits, des leçons de cinéma avec Pascal Bussière, André Turpin, Philippe Falardeau, les gars